Vous écoutez RTL. RTL.
On refait le match.
Pascal Pro.
Bonsoir à tous. Certains l'espéraient, d'autres la craignaient. Tous convenaient qu'elle était inévitable pour la première fois depuis 1930 et la création de la Coupe du Monde de football. L'arbitrage vidéo sera donc mis en place durant la compétition. Est-ce un jour de gloire ou au contraire un samedi funèbre entre Waterloo et Austerlitz? Bienvenue dans On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Et pour en parler autour de la table, bonjour à Hervé Penaud de l'équipe.
Bonjour mon cher Pascal, avec une telle introduction, ça donne envie d'être au niveau quand même.
À Eric Bilderman qui est là également du groupe L'Équipe, bonjour.
Bonsoir.
Raymond Abou, et je rappelle Raymond que vous n'êtes pas un journaliste professionnel, mais que vous apportez un éclairage différent, pertinent, intelligent à nos débats. Merci d'être avec nous.
Bonsoir à tous, bonsoir Pascal.
Ça ne veut pas dire que les journalistes ne sont pas tout ça, hein, bien évidemment. Eric Silvestro, bonjour.
Bonsoir à tous.
On va parler de la vidéo, mais partons immédiatement pour 3, puisque c'est le dernier match du Paris Saint-Germain avant la rencontre choc face à 3. On va évidemment beaucoup parler de Neymar, mais pour le moment, parlons du PSG qui mène. Nicolas Georgerot, bonsoir.
Bonsoir les amis. Effectivement, 1-0 grâce à un but de Di Maria à la 47e minute après une première période assez poussive en raison notamment des changements de poste pour beaucoup de joueurs. Il faut rappeler les trois de devant aujourd'hui, Di Maria, Draxler et Nkunku. Et le but est venu de Di Maria en début de seconde période sur une passe décisive de Draxler. Et à présent, Di Maria et Rabiot notamment sont sortis pour les entrées en jeu de Thiago Motta et de Dani Alves. Le PSG contrôle et 3 essaie de jouer un petit peu plus haut, 1-0, et il reste un quart d'heure.
Pas de blessés, c'est évidemment l'information quasiment la plus importante.
Exactement.
Sur ce PSG aujourd'hui. Hein.
Exactement, au-delà du résultat, c'est évidemment la priorité, c'est éviter toute blessure, et pour l'instant, de ce côté-là, tous les Parisiens vont bien.
Et vous sentez que les Parisiens jouent avec le frein à main, peut-être ?
Alors moi j'ai senti sur la première période notamment Rabiot, on voyait un joueur comme Nkunku qui joue extrêmement peu cette saison avec Unai Emery, aller au contact, essayer de récupérer des ballons, et avec un Rabiot qui était lui beaucoup plus prudent, qui s'appuyait simplement sur ses coéquipiers et qui relançait très court. On l'a vu un petit peu différemment ensuite, mais effectivement le match de mardi est dans les têtes parisiennes.
Le fait que Thiago Motta et Lassana Diarra soient ensemble sur le terrain présage peut-être d'un choix qui sera compliqué à faire pour Emery. On en parlera tout à l'heure, Nicolas Georgerot. Mais je vous l'ai dit, on va commencer cette émission par la vidéo.
On refait le match sur RTL.
Réunie à Zurich, l'International Football Association de Bord, la fameuse IFAB, a confirmé donc que l'assistance vidéo serait bien utilisée lors de la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra en Russie. Cette décision fait suite évidemment à la volonté du président de la FIFA, Gianni Infantino, de mettre en place cette révolution. Parce que c'est révolutionnaire, qui fera également son apparition en Ligue 1 la saison prochaine. La non-vidéo est morte, messieurs. Alors, certains s'en réjouissent, d'autres pas. On a tellement parlé de ce débat. Que peut-on dire ce soir à 18h34 des choses qu'on n'aurait pas déjà dites?
Alors déjà, dans votre préambule, vous dites que l'arbitrage vidéo est total et la vidéo pour les non-vidéastes
pour le PSG, les amis.
Deuxième but du PSG, Nicolas Georgerot.
Au second poteau, c'est Nkunku qui est servi et qui vient trouver le filet opposé sur Szczesny. 2-0 donc pour Paris, il reste 14 minutes alors que Timothy Weah va entrer en jeu, sa première apparition en Ligue 1. Timothy Weah, le fils évidemment de Georges Weah.
Mais je pense que c'est la première fois qu'un fils de président d'une république va évoluer en Ligue 1. Je pense que c'est
certainement.
Il me semble qu'il n'y a pas de précédent.
C'est la première fois qu'un joueur de Ligue 1 est président de la République aussi.
Je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est quand même assez unique.
18h35. Il était hors jeu et il y avait faute au départ de l'action, mais c'est anecdotique.
C'est pas anecdotique.
Nkunku est hors jeu sur le centre.
Voilà pourquoi la vidéo était utile.
Il y a une faute sur un Troyen.
Mais justement, Pascal Garibian était dans le journal de 18h tout à l'heure avec RTL et rappelait les 4 cas où la vidéo entrerait en cause. Cette faute avant ou hors jeu ensuite
Évidemment, puisque l'arbitre peut très bien demander l'utilisation de la vidéo, puisque l'un des 4 cas que vous citez, c'est pour un but marqué. Donc il peut très bien estimer qu'il y a doute Et donc, il va demander l'arbitrage vidéo. Et donc là, il aurait vu.
Quoi, c'est...
Alors, la faute, il aurait peut-être pas vu, mais en tout cas, le hors-jeu.
Et regardez, ça aurait évité ce qu'on est en train de voir en ce moment. C'est QFD. Ouais. Voilà, il y a l'arbitre qui
Jean-Louis
va
Garcia,
voir.
L'entraîneur Jean-Louis
Garcia,
Royal.
Parce qu'il n'est pas content,
ça
Jean-Louis
aurait
Garcia.
Évité la vie,
Nicolas,
ça aurait
évité la discussion, ça aurait évité
le
charme du
sport. Non, il n'est pas exclu. C'est effectivement qu'il y a eu quelques mots qui est.
Ah oui. Ben voilà à quoi ça sert la vidéo. Ça sert à enlever les polémiques, les émotions. C'est ça que ne veulent pas entendre les anti-vidéos. Ça, c'est un cas concret.
Concret, exactement.
Je trouve que c'est un signe que nous envoie le ciel à 18h36. Pascal. Au moment où on parle de cela, on a un cas concret pour l'expliquer.
C'est un signe sur un des cas. Sur le but marqué, je suis entièrement d'accord.
Mais c'est vous qui avez soulevé le lièvre, si j'ose dire.
D'accord, mais hors-jeu par jeu, en effet, c'est facile à juger. Vous avez des révélateurs. Alors après, certains vont vous dire le révélateur n'est pas toujours exact. Mais bon, après, il ne faut pas chipoter non plus.
Justement,
mais non, à un moment, il y a de la technique aujourd'hui. Pour un but marqué, la balle a franchi, où il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, c'est très simple. Moi, je suis tout à fait d'accord pour l'utilisation de la vidéo pour ça. En revanche, quand je vois qu'après, il y a aussi sur une situation de pénalty, pour un carton rouge direct, pour une erreur d'identité
de joueur.
Ah, mais
ça, c'est important.
Mais,
non, mais c'est très important,
mais
une erreur d'identité de joueur.
Mais c'est beaucoup trop, parce qu'on va faire appel à la vidéo toutes les 5 minutes et on va jamais s'en sortir. Et sur un pénalty, tu peux avoir interprétation. Donc, s'il y a interprétation, il y a discussion infinie. Alors, sur un but marqué, il y a hors-jeu ou il y a pas hors-jeu, c'est simple.
Mais c'est pas si simple que ça, malheureusement. C'est-à-dire que je t'entends, c'est pas si simple que ça, parce que donc, il y a pas hors-jeu. On est d'accord sur la vidéo. Mais dans la seconde d'avant, celui qui fait la passe a donné un coup de coude à un joueur.
Mais c'est pas dans le cas.
Mais c'est pas dans le cas. Mais quand vous serez celui qui sera, sera désavantagé, il va demander une extension du système de la vidéo. C'est là où vous ne vous rendez pas compte que l'on va aller de plus en plus loin dans le système de la vidéo. Et vous parlez tout à l'heure du. Là, c'est simple, la vidéo, elle résout la question. Mais il y a autant de cas où elle ne va pas la résoudre, puisqu'il faudra remonter plus en arrière pour avoir une résolution.
D'abord, il n'y a pas de système parfait.
Exactement.
Et la vidéo, moi j'aime bien la vidéo, mais je pense qu'il ne faut pas l'appliquer partout. Je ne suis pas non plus un intégriste de la vidéo. Je pense qu'il faut la limiter.
Non, mais en revanche, il y a les intégristes de la non-vidéo.
Ah, oui.
Parce que généralement, quand on est contre la vidéo, c'est un intégrisme absolu. On vient de le voir avec la démonstration d'erreur.
Faut faire attention aux mots,
je ne peux pas laisser ça.
Oui, mais laisse-moi terminer quand même.
Mais c'est à moi qui s'adresse.
Oui, mais je voudrais simplement dire qu'il faut faire attention aux mots avec le mot intégriste.
Ah, ça, c'est plus
forcément connoté aujourd'hui un peu. Si, on peut le dire comme ça.
Non, mais
faire attention.
On peut encore utiliser des mots du vocabulaire français qu'on utilise dans la langue française.
Donc, je suis d'accord avec vous, mais soyons prudents.
Je suis effectivement contre la vidéo. Tout ce que je vois ne me fait absolument pas changer d'avis, sauf sur un point. Et ce point-là, j'ai toujours été favorable. C'est la goal line technologie. Sauf que malheureusement, en étant favorable à ce seul aspect de la vidéo, il s'est avéré qu'elle n'était pas fiable.
Parce qu'on a
Raymond a pris le truc
a
toujours pas parlé.
C'est super rien, mais
Raymond,
c'est comme ça.
Raymond, c'est intéressant parce que Raymond a une autre sensibilité. Non,
mais j'ai l'impression qu'on est ici, nous, on s'en fout de ce qu'on pense. Il n'y a que Raymond qui est intéressant.
Mais je rigole. C'est la sensibilité.
Sur des faits arrêtés, on est d'accord. Quand il y a but, on est d'accord. Moi, je rejoins Eric sur l'histoire du pénalty. Tout à l'heure, vous avez dit 18h36, Eric Silvestro, il a commenté l'action. Il a dit d'abord faute et hors-jeu. Ce qui est intéressant, hors-jeu, d'accord, il y a le révélateur, on est d'accord avec Eric. Sauf que lui, il a vu une faute. Moi, j'ai pas vu de faute sur l'action. Comment on fait? Il n'y a pas faute sur ça. Il n'y a pas faute du tout. Il y a hors-jeu, mais il n'y a pas faute du tout.
Comment on continue le débat?
C'est bien là.
J'allais répondre à la question.
Il n'y a pas faute.
Ah, c'est publicité, c'est autre chose. Je m'incline.
Austerlitz ou Waterloo, pour vous, c'est Waterloo, manifestement.
Tout à fait.
Pour vous, c'est Austerlitz.
Mais évidemment.
Moi, c'est Gare de Lyon. Ça intéresse quelqu'un, je préfère partir dans le sud. Moi, c'est
Gare de Lyon. Les quatre gares comme au Monopoly. tout de suite.
RTL. On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Le Paris Saint-Germain mène 2-0 à 3, Nicolas Georgerot.
Oui, il reste 7 minutes dans ce temps réglementaire et un pari assez défensif, même si Timothy Weah est entré en jeu, donc qui est lui qui était le seul attaquant de pointe, le seul avançant vraiment de ce groupe parisien aujourd'hui et qui est aux côtés notamment de Draxler et Nkunku. 2-0 pour Paris.
Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que la vidéo sera présente lors du Mondial. La décision est aujourd'hui, elle a été prise aujourd'hui par l'International Football Association Board, c'est pourquoi nous en parlons, non pas pour ou contre la vidéo d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire que c'est presque un débat qui appartient au passé.
La preuve, attendez, excusez-moi, le président de l'UEFA a déclaré que pour lui, le système de la vidéo n'était pas encore au point et qu'il le refusait pour la Ligue des Champions
mais
la
saison aussi, prochaine. Mais il a aussi dit que c'était l'avenir.
Mais on est en train de parler du présent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le débat. Bien entendu que si dans des...
Mais je vais répondre à la question tout à l'heure de
envisager
Raymond.
L'évolution d'une technologie telle qu'il n'y aura plus de débat autour de cela. Aujourd'hui, ce qui a été fait dans les différents championnats a montré que les débats à l'issue des décisions de la vidéo ne disparaissait pas et que dans le monde du football, deux instances aussi importantes que la FIFA et de l'autre côté l'UEFA prennent des décisions
anti-polémiques.
Mais on va répondre. Ce qu'on peut dire, c'est que Pascal Garibian...
On va répondre, c'est un fait.
Non, mais Pascal Garibian était tout à l'heure, je le répète, au micro de Christian Olivier. Il a donné quelques statistiques qui étaient intéressantes.
Ça, c'est important.
Le temps de prise de décision en moyenne, c'est 68 secondes. Donc, il ne faut pas nous dire que ça ralentit.
Ça ralentit pas le jeu.
68 secondes, ça ne vous ralentit pas le jeu?
Non, parce qu'il y a un pénalty. Non, mais alors, on va sur des faits précis. Un pénalty, c'est en gros 1/30 entre le moment où le pénalty est sifflé, il est frappé. Donc 1/30.
Et un joueur qui simule,
voilà.
Des fois,
donc
c'est 60,
68 secondes, c'est moins de temps que de tirer le pénalty.
Quand tu marques un but, tu dois attendre 68 secondes.
Mais non,
68 secondes.
Mais absolument pas. Mais oui, ça, c'est d'une mauvaise foi. Parce que déjà,
vous donnez 68.
Mais si, on va essayer de prendre des éléments concrets. Non, mais attends, Eric, t'as beaucoup parlé. On va prendre des éléments concrets. On a posé une question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait si effectivement sur l'action de jeu on n'est pas tous sûrs, on n'est pas tous
sur
du même avis? Relativement simple, c'est l'arbitre qui décide.
Bah évidemment.
C'est aussi simple comme il décidait avant. Donc là, le problème, on n'en parle même plus. C'est réglé. Après, tu parlais. Ça, c'est pas un argument, ça. Donc, l'histoire du temps sur un pénalty, sur une chose comme ça, il n'y a aucun doute, ça ne pose aucun problème puisque le temps est inférieur à quelqu'un qui va aller tirer un pénalty. Donc on est carrément dans les temps classiques. En revanche, effectivement, il y aura quelques fois, ça on ne peut pas le nier, même si on est pour la vidéo, on peut admettre que par moment, ça va peut-être ralentir parfois un peu le jeu. Couper, alors tu parlais des émotions, on n'est pas non plus sur l'émotion absolue tout le temps. Le sport, c'est aussi de la réflexion. Il n'y a pas qu'au moment où tu as marqué un but, on se lève. Dans ces cas-là, on laisse tous les buts hors jeu. Le buzz, c'est pas un buzz permanent.
Ce qui est très important pour que l'émotion ne soit pas coupée complètement, c'est qu'il va falloir instaurer un système où le public va participer à la chose.
Oui, absolument.
Je prends évidemment l'exemple du hockey en tennis où le public voit sur les écrans géants si la balle est dehors ou pas quand on demande d'ailleurs le hockey qui a un meilleur système que la Golden Technology pour la même chose. Mais voilà, il va falloir, parce que j'ai l'exemple de France-Espagne où on avait testé la vidéo qui avait d'ailleurs très bien marché, puisqu'il y avait deux buts, un pour la France et un pour l'Espagne.
C'est un exemple très concret, vraiment très réussi.
Qui avait été très juste. Mais le public, dans les tribunes, ne comprend absolument pas ce qui se passe.
Parce que c'est nouveau,
c'est la première fois.
C'est pour ça que c'est très important.
Vous ne trouvez pas que c'est une mauvaise foi de dire ça?
Mais non, au contraire,
c'est pour dire qu'il faut l'évoluer.
Je vous dis simplement,
vraiment, de manière sereine. Évidemment qu'ils ne comprenaient pas le public, c'est la première fois.
Je vous dis simplement qu'il faut réfléchir à ce que les images soient diffusées au public de manière à ce qu'il y ait réaction et émotion. Voilà, il y a en jeu le public
qui sera peut-être le cas au bout du monde.
Encore une fois, sur l'image que tu diffuses, tu vois que dans la seconde qui précède la phase de jeu.
Tout à l'heure.
Mais je l'ai dit, mais le problème n'est pas résolu, puisque on est en train
d'arrêter. Mais il faut bien arrêter. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, peut-être que dans 20 ans, peut-être que dans 30 ans, on verra toutes les actions d'un match via des caméras, sur drone.
Je suis dans une situation où malheureusement, la vidéo finira dans le football comme dans le rugby. C'est-à-dire qu'on déroulera entièrement l'action pour voir s'il n'y a aucun moment, depuis le départ de l'action, il n'y a pas eu de faute. Et ben non,
mais moi je suis d'accord. C'est pas le cas pour l'instant. Mais c'est pas l'idée de la vidéo.
Moi je suis d'accord avec ça. Vous verrez que si tu perds la finale de la Coupe du Monde sur une passe qui a été faite par un joueur qui a commis une faute, tu demanderas et ça sera un drame absolu pour l'équipe qui a perdu la Coupe du Monde.
Mais non. Il ne faut pas tomber dans l'excès.
Une faute à 80 mètres.
Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous ce jour-là.
En fait, il n'y a pas de discussion possible. Tant les uns et les autres, peut-être. Moi, je suis de mauvaise foi et je ne m'en rends pas compte.
Mais
alors, je plaiderai coupable. Je vous dis, je ne suis pas à 100% pour la vidéo et tout le temps.
Il n'est pas question d'être toujours et tout le temps.
Simplement que pour des matchs qui ont une très forte notoriété, comme la Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions, etc., ils ne puissent pas avoir d'injustice criante et que la vidéo puisse aider les arbitres.
Et puisqu'on
peut pas le bout du monde.
Eric a raison, c'est que c'est vrai qu'il va y avoir une période d'adaptation pour les anciens. S'adapter, ça veut dire qu'il va falloir que les dirigeants, les entraîneurs, à un moment donné, ils vont se sentir biaisés si l'équipe adverse a eu un but accordé grâce à la vidéo et que toi on te refuse un tac par derrière par exemple qui méritait rouge, là l'entraîneur va se mettre contre l'arbitre pour dire pourquoi lui il a eu la vidéo tout à l'heure et pourquoi moi je l'ai pas maintenant.
J'ai l'impression que
il y a une période de transition.
Je vous coupe. J'ai l'impression que Nicolas Georgerot nous appelle.
Oui, non, mais juste une précision, parce qu'effectivement, sur ce que dit Eric, c'est aujourd'hui le nœud central dans ce dossier, de savoir l'information donnée aux gens dans le stade. C'est le point central. Par exemple, la LFP travaille toujours cette question, et ce n'est pas encore réglé. Et il y a des pour et il y a des contre sur cette, cette information.
Mais ça, c'est une discussion. C'est une discussion qu'on peut avoir, mais ce n'est pas le point du problème.
Certains ne veulent pas que ce soit utilisé pour, qu'il y ait, pour éviter des débordements ou quoi en fonction des images. Si le public ne participe pas, l'émotion est coupée.
Mais ne déplaçons pas le problème. Exactement, ne déplace
pas. C'est la philosophie, pardonnez-moi. C'est une question éthique.
Évidemment. C'est la justice, c'est l'injustice.
Exactement. L'infrastructure suivra, comme disait l'autre.
Mais Pascal, n'essayez pas de me convaincre, je suis pour cette utilisation-là précise.
Arrêtez avec de donner toujours des micro-arguments, des micro-détails. Il y a une question éthique. Moi, je respecte ceux qui disent « je ne veux pas de vidéo ». J'entends cet argument, mais ça, on a le droit de le dire.
Ah ben, heureusement qu'on a le droit, on a tous les droits.
On peut considérer qu'effectivement... l'injustice fait partie.
On peut considérer effectivement que le football n'évolue pas. Effectivement, l'injustice. Je me demande même pourquoi on forme les arbitres, parce que finalement c'était très bien avant, quand ils faisaient beaucoup plus d'erreurs qu'aujourd'hui. Ça fait partie du football. L'injustice.
On ne voit pas les erreurs maintenant. L'arbitre est le seul à être au courant. On les voyait pas les erreurs.
C'est un débat. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler jusqu'à 23h ce soir.
Mais Christian Olivier, je pense
qu'on va en parler.
Et les arbitres n'auront plus le même rôle. On va en parler après la pub.
Vous verrez pendant la Coupe du Monde.
Qu'est-ce que vous voulez ?
L'arbitre peut pas être le seul à pas être au courant.
Mais vous nous avez expliqué que c'était que ça allait être, comment dire, qu'on allait prendre des heures, France-Espagne, ça a été parfait.
RTL. On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
À 18h49, Nicolas Georgerot est au stade de l'Aube, où on a vu il y a quelques instants Nasser El Khelaïfi, qui est à côté du maire de Troyes, François Baroin. Et le Paris Saint-Germain mène 2-0.
2-0 grâce à des buts de Di Maria et de Nkunku. On est dans le temps additionnel, il reste 2 minutes 30 dans ce temps additionnel.
Vous êtes pour ou contre la vidéo, vous, Nicolas?
Moi, je suis pour la goal line technologie quand elle marche et je suis contre la vidéo en assistance vidéo.
Voilà. Vous êtes un grand spécialiste du cyclisme, il n'y a pas de vidéo en cyclisme.
Pour la photo finish, quand même.
C'est franchissement de ligne.
Et pourquoi on fait la photo finish? Les arbitres, faut comme à l'ancienne, faut dire.
On accepte une avancée vers une forme de conciliation entre tout vidéo et rien. Et moi,
mais
je
c'est
fais
pas
partie...
tout vidéo.
Mais je suis.
T'as été le premier à expliquer que c'était justement pas tout vidéo. C'est qu'il manquait
trop.
La vidéo sur des actions.
Il y en a trop. Ça, c'est vrai qu'il y en a trop.
Donc trop vidéo.
La goal line technologie, à partir du moment où on est sur un fait avéré, c'est-à-dire le ballon est rentré ou pas rentré, on est dans quelque chose.
Et toi, tu trouves normal? Est-ce que tu trouves normal?
Tous les autres faits sont sujets à la discussion.
Alors, est-ce que tu trouves normal?
Juste une pièce dans la machine. Non, mais est-ce qu'on avait d'autres sujets a priori à traiter?
Est-ce que tu trouves normal, par exemple, qu'un but en finale de Coupe du Monde, même demi-finale de Coupe du Monde, un but soit marqué à la Maradona, par exemple en 2018? C'est pas possible. Parce que alors, si vous m'expliquez que c'est génial pour l'émotion, mais c'est pas la légende. La légende
anglaise. Mais tu peux tuer aussi quelqu'un pendant que tu y es pour marquer un but. C'est la légende. On peut dire n'importe quoi.
C'est vrai que là, on peut débattre de manière sereine quand on en
parle. C'est la légende, il a blessé.
Utiliser des arguments.
Comme Schumacher a blessé un jour Batiston, vous trouvez ça très bien. C'est la légende, ok.
Il aurait été expulsé.
Utiliser des arguments.
Il aurait été expulsé.
Si l'arbitre était compétent, Schumacher serait pas assis sur le terrain.
Ah, troisième but du PSG, non, Nicolas Georges.
Non, non, hors-jeu.
Révélateur.
Et Timothy Weah a perdu son duel face à Zelazny et derrière sur un ballon donné par
nous avons perdu notre latin dans cette encore discussion. Est-ce que finalement, Eric Bilderman, ce qui vous ennuie finalement, c'est que ça marche, c'est ça votre problème? C'est-à-dire que là, il y a une phase d'expérimentation. Cette phase d'expérimentation fait qu'aujourd'hui, on va l'appliquer. Et en fait, vous avez perdu sur toute la ligne.
Vous êtes...
C'est ça la vérité. Ça qui vous ennuie, parce que ça marche.
Alors ça marche tellement que, encore une fois, la Ligue des Champions et le président de l'UEFA ne va pas l'appliquer. Ça marche tellement qu'il n'en est pas convaincu. Et c'est quand même la Ligue la plus importante et la plus représentative aujourd'hui de la puissance du football. Ça marche tellement que Mauricio Pochettino, l'entraîneur moderne, jeune de Tottenham, est totalement contre ce système et de plus en plus de personnes du football.
Mais si, Zidane est pour.
Mais Daniel Alves n'est absolument pas en jeu par contre.
Voilà. Là, on a un deuxième exemple. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au début du débat, du débat sur la vidéo, nous avons un deuxième exemple absolument invraisemblable.
Ah bon?
C'est-à-dire qu'un but refusé à Daniel Alves, qui n'est pas en jeu, mais c'est minimum 2 mètres. Minimum 2 mètres.
Mais le problème que
à l'arrivée, ça fait le même score, puisqu'il y a un but qui a été accordé, mais un autre qui était valable, qui n'a pas été accordé.
Nicolas Georgerot, c'est terminé.
Nicolas, laissez Nicolas parler, s'il vous plaît.
Du Paris Saint-Germain à 3-2-0, début de Di Maria et de Nkunku, alors qu'on rappelle très brièvement que Cavani, Mbappé, Marquinhos, Pastore et Verratti étaient restés à Paris. 2-0.
Pas de blessés, hein, c'est ça qui est important.
Pas de blessés, non, non.
Mardi soir, vous êtes au Parc des Princes avec Philippe Sanfourche.
Tout à fait.
Donc là, vous êtes dans la dernière ligne droite, Nicolas.
C'est la préparation mentale.
Vous préparation mentale. Ce soir, ah ouais. Vous ne sortez pas.
Il ne sort jamais, Nicolas.
Et non, jamais. 22h,
bon. Oui. De l'eau, une soupe, etc.
Voilà. Et soirée spéciale, hein, Pascal, sur RTL.
Jusqu'à minuit.
20h minuit. Club Lisa spécial avec Michel Télizard.
Vous allez être formidable, Nicolas et Philippe. 18h53 sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Éric Silvestro.
Très bon exemple ce qui s'est passé avec Daniel Alves là, parce que si l'utilisation de la vidéo est confirmée, notamment pour ces buts où il y a hors-jeu ou pas, le rôle des arbitres assistants va être complètement différent et peut-être en bien pour le jeu. Je m'explique. On va évidemment dire aux arbitres assistants de ne pas lever leur drapeau précipitamment sur une action où il y a un hors-jeu potentiel. Pourquoi ? Parce qu'on va laisser l'action se dérouler jusqu'au bout et ensuite il y aura arbitrage vidéo où on vérifiera s'il y a hors-jeu ou pas. Parce que je vous rappelle que si l'arbitre assistant lève son drapeau, même s'il n'y a pas hors-jeu, on ne peut pas avoir recours à la vidéo. Parce que l'arbitre assistant peut avoir une influence sur les défenseurs. Donc la consigne va être très simple. Les arbitres assistants ne lèveront plus leur drapeau.
Et c'est grâce finalement à la vidéo qu'on va arriver à un point très précis.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous avez dit.
Je vais l'expliquer. Non, mais poursuivre.
C'est pas simple pour ceux qui nous écoutent.
À une certaine époque, on avait expliqué aux arbitres de touche de ne lever que vraiment s'ils étaient sûrs qu'il y avait hors-jeu.
Et bien là, aujourd'hui, vous levez drapeau, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est du football. Mais sinon, on parle pas de vidéo. Si vous êtes technique, Pascal. On parle pas de vidéo, on parle pas d'arbitre.
Ça veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'actions qui aujourd'hui sont arrêtées par les arbitres assistants parce qu'ils n'aiment plus, qui ne le seront plus.
Je suis d'accord.
Donc ça favorisera le jeu.
Bon, même pas sûr, mais bon, je suis pas sûr non plus de comprendre.
Mais comment ça? Si vous arrêtez pas l'action, l'action continue.
Autre chose, parce que vous êtes d'accord et vous vous comprenez pas, il faudrait un arbitrage vidéo pour comprendre et décoder ce que vous venez de dire.
18h54, on a tout dit. En tout cas, ça va être...
C'est une révolution.
Moi, je vais vous dire quelque chose, parce que moi, si ça marche pas, on pourra revenir en arrière. Si vraiment c'est nul, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donnez au moins une chance au produit, comme dit l'autre. C'est ça, c'est-à-dire que moi,
c'est un bon argument, ça, Pascal. Pour une fois, vous avez un argument très sensé.
Non, mais j'ai des discussions avec des gens qui n'aiment pas la vidéo, t'as l'impression qu'on leur coupe les deux mains. Bon, bah, si c'est pas. Moi, je vous assure, si je me trompe, je vous dirai, je me suis gouré, vous avez raison. Ça ralentit le jeu, c'est pas bien, on comprend plus, c'est haché, etc. Je vous assure, je le dirai, mais volontiers. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça.
Bien sûr, on peut essayer, on peut pas laisser l'arbitre le seul à pas avoir vu ce qui s'est passé. Bien tout sûr, le stade est au courant, sûr. Tout le monde est au courant.
Bon, il y a sens de Raymond.
Et Chaperon, après, il pète les plombs et il s'amuse avec des coups de pied.
Il l'aurait mis quand même parce qu'il aurait vu l'image.
Mais on peut pas laisser les arbitres, faut les aider.
Eric déteste aider les arbitres.
Le bon sens de Raymond. Raymond le matin, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux sous le nom Raymond le matin.
Ceux qui insultent le plus les arbitres et les supporters sont ceux qui disent il faut aider les arbitres, je veux bien.
Ça dépend des supporters.
Oui, enfin, dans un stade, globalement, quand il y a une erreur d'arbitre, c'est assez rare que le public prenne fait et cause pour l'arbitre et soit compréhensif.
Parlons de Neymar. Parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas être d'accord non plus sur ce thème. Ah. D'abord, il a été opéré ce matin.
Oui.
Ça s'est bien passé.
Visiblement.
Bah, visiblement.
Si, si. Bah oui, mais c'est ce qu'ils ont dit.
Si, très bien passé. La communication, en tout cas, est positive.
Voilà.
C'est un chirurgien brésilien qui l'a opéré. Mais ce n'est pas complètement une défaite pour la chirurgie française, puisque le professeur Saillant était présent et il a même communiqué pour bien expliquer qu'il n'y avait pas de différence entre les médecins du PSG et les médecins du Brésil. Mmh. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant, mais les médecins du Brésil ont expliqué qu'il y avait fracture et les médecins du PSG ont expliqué qu'il y avait fissure. Mmh. Donc,
si c'est les mêmes, pourquoi Ronaldo il est venu se faire opérer par le professeur Saillant quand il jouait?
Parce que Saillant opérait à l'époque. Alors
ce qui est le plus étonnant, c'est que Rodrigo Lasmar, le médecin de la section brésilienne qui est censé avoir opéré Neymar, n'est même pas un chirurgien orthopédique.
D'accord.
C'est quand même étonnant d'opérer un joueur sur un os avec une vis quand t'es pas chirurgien orthopédique.
Il a un pivot à la cheville.
Mais non, mais c'est quand même surprenant.
Il est dentiste.
Un pivot à la cheville.
Si tu veux, il est ophtalmo.
Bon.
Première question.
C'est vrai.
Première question, soyez sérieux. Est-ce que la saison est terminée pour Neymar? Saison avec le Paris Saint-Germain, ça se termine le 15 mai.
Alors moi Eric Bilderman. J'ai envie de vous dire non parce que tenant compte des délais.
Le 3.
Si le Paris Saint-Germain passe le Real Madrid, va en demi, voire en finale de la Ligue des Champions, on peut être dans des temps légèrement raccourcis sur quelque chose qui devient à nouveau essentiel pour Neymar. Un, participer à la Coupe du Monde, mais deux, de participer à une finale de la Ligue des Champions et éventuellement de la gagner en étant remis, puisque les temps de guérison entre 2 et 3 mois peuvent on le sait, quand il y a un travail qui est vraiment bien fait au niveau de la rééducation, du travail, de la remusculation, il peut être disponible.
Donc mais moi, avec le PSG,
il peut être disponible 8 ou 15 jours avant une finale de Ligue des Champions.
Si le PSG joue la finale de la Ligue des Champions, Neymar, on pourra le revoir sur le du PSG.
Je pense, oui.
Si le PSG est éliminé entre-temps, on verra plus Neymar.
Merci. Première question. Voilà. Il nous reste une minute. Je ne sais pas si on a le temps d'aller vite. Pourquoi le Brésil ?
C'est relativement logique. Parce que les médecins là-bas sont très bons. Les kinés sont à très très haut niveau. Je me souviens quand je suivais Lyon, il y avait beaucoup de Brésiliens. Ils adoraient la manière de travailler des Brésiliens. Et troisième chose, il est en confiance. Quand vous êtes dans un environnement que vous connaissez, avec des gens où vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer, ça n'a rien à voir.
D'accord. Alors on se demandera aussi si c'est le nouveau Ronaldinho, s'il est en voie de Ronaldinhoisation. Neymar, sous-entendu, il va plus en faire une, quoi. Il va sortir tout le temps et on le verra.
C'est une question.
Neymar au PSG, ça sera une question également. Qui pour remplacer Neymar mardi? Thiago Silva est de retour, visiblement. Quelle sentinelle? Puis on parlera aussi forcément de Zidane, et du Real Madrid. On salue Charlotte Arrigoni qui est avec nous. Bonsoir Charlotte, vous êtes pour ou contre la vidéo?
Je vais dire pour.
Bravo Charlotte.
Vous êtes une femme moderne. 19h le flash, à tout de suite.
RTL.
On refait le match.
Pascal Praud.
Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a gagné 2-0 à 3, qu'il n'y a aucun blessé. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui que l'International Football Association de Bordeaux a confirmé que l'assistance vidéo sera bien utilisée lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc on en a parlé pendant la première demi-heure, on ne peut pas parler toujours que de la vidéo dans Refait le Match. Eric Bilderman, Hervé Penaud, Eric Silvestro et Raymond Abou. Nous sommes à 4 jours, c'est bien ça, d'un match historique. Le Paris Saint-Germain qui recevra le Real Madrid. Il faut remonter...
3
jours ?
Dimanche, lundi, mardi.
Et puis je comptais un peu de samedi aussi, mais vous avez raison. Saison terminée pour Neymar, on a 10 points d'interrogation. Pourquoi le Brésil ? Nous avons répondu. Neymar, est-ce que c'est le nouveau Ronaldinho ? Est-ce que c'est un joueur qui va décevoir ? C'est ça l'idée. Parce que Ronaldinho, il a des qualités extraordinaires. Il a été ballon d'or, c'est entendu. Mais on a le sentiment qu'il n'est pas allé au bout de son potentiel.
Est-ce que vous avez l'impression,
Cristiano Ronaldo est allé au bout de son potentiel, que
depuis le début de saison, Neymar, c'est une déception ?
Énorme.
Nous, je regarde aux notes de l'équipe, par exemple, qui ne veut pas tout dire. Mais c'est quand même un instant assez...
Il n'y est pas, il est exclu à Marseille. Oui, j'attendais mieux.
Non, mais dans l'ensemble, il fait quand même une saison.
J'attendais mieux dans le comportement, dans les performances.
Alors, le comportement, on connaissait Neymar, il a toujours été comme ça. Oui, mais il a toujours été comme ça, Neymar. Il faut quand même pas, à partir du moment où vous lui laissez les clés du club,
on change à quel âge, tu vas changer.
Ah, mais on évolue, mais je connais rarement des gens qui changent, pour tout vous dire. On évolue, on peut effectivement modifier un peu une partie de son tempérament, mais à partir du moment où vous laissez toutes les clés du club à un joueur, qui pour vous, il est plus important que le club lui-même, et inévitablement, vous aurez des soucis en retour.
Moi, je connais des gens qui changent, mais généralement, c'est en mal.
Johnny, déjà, ça ne change pas un homme, ça vieillit. Alors, quand est-ce qu'il va vieillir alors ?
Mais il a 26 ans.
À un moment donné, 25 ou 26 ans, à un moment donné, c'est vrai que moi je rejoins Pascal, c'est son comportement qui nous gêne. Après, sur les statistiques et sur ce qu'il fait sur un terrain de foot, il n'y a rien à dire. Il est là, il est dans les temps de passage, tout va bien. C'est bien ce qu'il fait. C'est le comportement qui ne va pas.
On ne va pas s'attarder longtemps en même temps sur cette question.
Je suis surpris parce que j'étais persuadé qu'il y en a un qui allait se payer de Neymar en Ligue 1, qui allait le fracasser, qui allait lui faire mal, qui allait le priver de cette finale de Ligue des Champions. Et finalement, le destin, il s'est blessé tout seul, le gars.
Il s'est blessé tout seul.
Heureusement, quelqu'un ne l'a pas blessé.
Il s'est blessé tout seul et sa personne ne pourra le dire parce qu'on n'a pas de preuves de cela.
Est-ce que
le comportement inadéquat d'un sportif qui n'a pas une hygiène ou une discipline de sportif de haut niveau a favorisé
ce genre de blessure, ça arrive à tout le monde.
Pascal, là, je ne vous suis pas parce que.
C'est une fissure, ça s'appelle des blessures de fatigue.
Il y a une publicité autour des quelques sorties nocturnes de.
Il n'y a pas que ça.
Non, mais alors je ne sais pas, vous avez peut-être des infos que je n'ai pas.
Quand il va au Brésil, par exemple, il fait un aller-retour en
Mais s'il passe sa vie à faire des allers-retours, tous les joueurs sud-américains, par définition, passent leur vie à faire des allers-retours. Tous les joueurs de football, ou en tout cas une grande majorité d'entre eux, profitent de la vie et profitent d'activités nocturnes et sortent.
On l'a dit, donc on ne va pas
stigmatiser Neymar là-dessus, me paraît vraiment déplacé.
Est-ce qu'on le reverra au PSG ? Ça, c'est une vraie question.
À
votre avis ?
Oui, assurément.
Mais Eric, non, vous semblez
non,
douter.
Non, moi je doute, c'est-à-dire que je le souhaite, ça c'est un sentiment, mais...
Il est sous contrat.
Oui, non, mais il est sous contrat, c'est une chose. Le Paris Saint-Germain fera de toute façon tout pour le garder et peut l'empêcher financièrement de toute façon de le faire partir. Mais si le PSG est éliminé en huitième, Neymar ne revient pas, Neymar gagne la Coupe du Monde, Neymar se mentalise que maintenant il va aller au Real Madrid, il y a une offre extraordinaire du Real Madrid, ça va devenir une guerre
de si,
incroyable pendant tout l'été. Je pense que scénario, on ne peut pas l'écarter.
Il y a beaucoup de si.
Oui, mais le football, il se nourrit que de ça. Hein.
Moi, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, si pour l'instant, ce n'est pas un grand club, effectivement, mais a suffisamment d'atouts pour résister à un départ de Neymar. Et ça, c'est quand même plutôt rare dans les grands clubs mondiaux. Il y a Manchester City, éventuellement. Il y a quelques clubs comme ça qui sont suffisamment puissants.
On comprend mal votre phrase, pour résister à un départ de Neymar.
Oui, bah, si Neymar veut partir, dans 95% des clubs, si Neymar veut partir, il part. Tiens, c'est terminé. En revanche, quand vous êtes le PSG, vous êtes un des rares clubs à vous dire... Tu resteras. S'il le faut, tu joueras pas avec là. Tu vas rester sous
contrat. Non, mais
Je vais t'expliquer jusqu'au bout pourquoi je dis ça. Sans que tu partes. Ça veut dire, en gros, c'est un bras de fer, ne partiras pas. Je vais vous donner un exemple précis, comme ça, au moins, vous allez mieux comprendre. Ribéry. Bien sûr que c'est impossible, parce qu'on sait très bien que c'est un argument de vente.
Ça n'intéresse personne.
Neymar n'a aucun intérêt à partir. En revanche, Neymar peut dire, on verra pour l'année prochaine. Ribéry avec Marseille, il voulait absolument partir. Robert Louis Dreyfus, à l'époque, qui était président du club, avant un match de Ligue Europa contre Sion, va le voir sur la pelouse et lui a dit texto, si tu veux partir, il n'y a aucun souci. L'année prochaine. Cette année, je peux te dire une seule chose, tu ne partiras pas. Si tu veux plus jouer à Marseille, tu joueras avec la B, tu joueras plus. Je te paierai tous les mois, il n'y aura aucun souci, je te paierai, mais tu ne partiras pas cette année. En revanche, on peut discuter, effectivement, l'année prochaine,
il y a des possible départ.
Cette année, le PSG ne peut pas faire autrement.
Alors, est-ce qu'il rejouera Neymar à Paris ?
Ce n'est qu'un sentiment, mais je pense que le PSG peut faire exactement ce que vient de dire Hervé Penaud, avec tous les joueurs, sauf Neymar. Je m'explique. Je pense que Neymar, pour convaincre Neymar de venir à Paris, je suis certain que Neymar a inclus une clause dedans qu'en cas de volonté de départ, il puisse choisir.
C'est interdit en France.
Non, mais les clauses sous sein privé, c'est absolument pas interdit.
Non, c'est interdit d'avoir une somme, comme était la clause de Barcelone.
C'est interdit de quand tu prêtes un joueur de l'empêcher de jouer contre le club qui le prête, et pourtant il n'y a aucun club qui prête son joueur contre qui le joueur joue. Donc les choses interdites, on les contourne toujours de manière ou d'une autre. Je m'explique, Neymar.
Non, là c'est un peu différent, parce que on parle de grosses sommes. Là, c'est pas simplement un joueur qui jouerait pas.
Moi je suis persuadé que si Neymar veut partir et qu'un club met 300 millions, même si le PSG peut le retenir, parce qu'en effet financièrement il peut faire ce qu'il veulent, à un moment, ils ne pourront pas. On a bien vu qu'il n'avait pas la main sur le dossier Neymar. Il fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut, il va où il veut,
C'est pas tout à fait la même chose.
Le PSG n'a pas la main sur Neymar, j'en suis sûr.
Je partage complètement ce que vient de dire l'ami.
Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas à Paris. C'est
la
juste
séquence
que...
qu'on vient de vivre montre une faiblesse de l'institution,
tout à fait,
du management,
tout à fait.
Des prises de décision du PSG, disons-le.
Mais il y a juste une chose, il faut... N'oubliez pas aussi une chose importante, c'est que là, on est petite institution club, Paris Saint-Germain. Là, l'histoire Neymar, c'est pas ça. L'histoire Neymar, c'est l'institution Qatar, le pays. Et le pays n'acceptera pas d'être ridiculisé par Neymar. Ça,
oui, là, il a accepté beaucoup de choses.
Mais là, le pays n'a rien à voir dans le fait d'être opéré au Brésil ou pas.
Ce que vous venez de dire par rapport effectivement à l'état Neymar par rapport au Paris Saint-Germain, c'est que si Neymar gagne la Coupe du Monde avec le Brésil, mais ça va être très très compliqué d'aller contre sa volonté.
Il restera à Paris s'il gagne la Coupe du Monde contre le Brésil parce qu'il doit une revanche.
Mais son père
au Paris
a déjà dit qu'il resterait.
Et pour répondre à la question, justement, ça peut solidifier son histoire avec le PSG, le fait de s'être blessé comme ça, il va pas partir comme ça sans rien gagner. La réponse à la question, est-ce que Neymar rejouera avec le maillot du Paris Saint-Germain ? Il est venu pour quoi faire ? Il est venu pour la Ligue des Champions, Neymar. Il est pas venu pour aller à Troyes, à Guingamp, à Angers. Il est venu pour la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et la Coupe du Monde.
Et
dans l'ordre. Il a été laissé terminer Raymond. Ligue des Champions, après. Ligue des Champions, Coupe du Monde et Ballon d'Or. C'est pour ça qu'il est venu. Si le PSG se fait sortir de la Ligue des Champions, vous ne reverrez plus jamais Neymar avec le maillot du PSG cette année. Il se préparera pour la Coupe du Monde pour aller chercher son Ballon d'Or. C'est tout. Faut pas espérer qu'il va venir rejouer ici.
Non, mais la question, c'était est-ce qu'il rejouerait un jour.
Ah, mais il rejouera. Ah, mais il rejouera.
C'est ça la question.
Là, Raymond, tu réponds à la question d'il y a un quart d'heure.
Voilà, là, c'était la question d'il y a un quart d'heure. Non, mais je peux pas parler, il y a un quart d'heure.
À 19h14, on marque une publicité. Vous êtes peut-être en train de revenir
du ski.
De vacances.
Oui, j'ai mon beau-frère qui rentre de vacances.
Des vacances. Donc vous nous écoutez, vous êtes en voiture.
Ah, certainement, les gens nous écoutent. On leur rend un grand bonjour.
La reprise des cours à Paris, c'est lundi.
Lundi.
Sur les téléphones aussi, ils nous écoutent les gens beaucoup.
Il a fait sur RTL. Donc on les salue.
Il y a la vidéo ou pas ?
On les salue. Publicité. Et à tout de suite, on parle de PSG Real. C'est mardi soir.
RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
À 19h16, Hervé Penaud, Eric Silvestro, Eric Bilderman et Raymond Abou. Depuis des jours, on en parle. On est à 3 jours. Mardi soir, PSG Real, soirée spéciale sur RTL. Qui pour remplacer Neymar ?
Di Maria.
Di Maria.
Di Maria qui a été bon ce soir. Là, il n'y a même pas de discussion. C'est donc, alors, Di Maria va jouer à gauche.
Ils permuteront avec Mbappé.
Moi, je préférerais à droite, moi. Moi, je préférerais Mbappé à gauche qui a joué à gauche à Monaco.
Cavani au centre ?
Oui, bien sûr.
Cavani au centre, Mbappé.
Mbappé.
Bah, il jouera logiquement à droite. Mais de départ, je préfère. Oui, mais je pense que Di Maria est vraiment.
Qui sera derrière ces trois attaquants ? Parce qu'on met Di Maria comme attaquant, nous sommes d'accord.
Rabiot Verratti, c'est une évidence.
Et Thiago Motta.
C'est Thiago Motta ou Diarra, je pense que ça sera Thiago Motta.
Ah oui, Thiago Motta.
Mais on est certain qu'il y aura une sentinelle. Il ne peut pas avoir un dispositif. Il ne peut pas faire Di Maria, Cavani, Pastore, Mbappé. Il ne peut pas mettre
Pastore. Pastore, il
n'est
même pas dans le groupe. Il lui a donné 20 buts contre Marseille. Il est même pas. Par contre.
Comme ça de Pastore, vous avez vu comment vous l'avez bâché.
Je ne l'ai pas bâché, mais si. À un moment, il ne va pas changer son système, mettre un joueur qui n'a pas joué de l'aller.
C'est pas une mauvaise idée quand t'as perdu 3-1 à l'aller.
Mais Pastore, tu peux le garder pour le match.
Ce que vient de dire Pascal, c'est pas complètement fou. Alors, peut-être pas Pastore, peut-être Draxler, c'est pas complètement fou. T'as perdu 3-1. Tu dois mettre de l'intensité tout de suite, tu dois aller vite de l'avant. Qu'est-ce que tu vas t'embêter avec une sentinelle à vouloir défendre ? Qu'est-ce que tu vas défendre ?
Mais c'est pas pour défendre, tu dois prendre le ballon mieux.
Surtout si tu mets Motta qui a 40 minutes dans les jambes pour jouer contre le Real. Si tu veux une sentinelle, tu mets Diarra qui a plus de matchs que Motta. Et à ce moment-là, là, tu joues à 3. Sinon, tu peux aussi jouer avec 2 milieux. C'est pas interdit.
Je suis assez d'accord avec cette idée, c'est que j'ai eu l'impression que depuis des semaines et des semaines, et je ne parle pas d'aujourd'hui spécifiquement, on est toujours avec cette obsession de sentinelle.
Pourquoi y avait-il
l'obligation de jouer avec une sentinelle ? Il y a plein d'équipes qui jouent en 4-3.
Alors, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas, la sentinelle, c'est le joueur qui est placé.
Oui, mais
qui est placé devant.
Poser une question et donner l'explication en même temps.
Parce que j'y pense.
Ah, d'accord.
Voilà, j'y avais pas pensé. En posant la question pour tout vous dire. Donc je fais un peu de pédagogie et je me dis, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce qu'est une sentinelle.
Absolument.
La sentinelle, c'est le joueur qui est placé devant la défense. Voilà. Et ça sera ou Diarra ou Thiago Motta.
Mais moi, je veux bien qu'on ne mette pas de sentinelle, mais dans ces cas-là, dans les semaines précédentes, on fait des matchs en 4-2-3. Voilà. Oui, donc, en l'occurrence, il y aura une sentinelle.
Alors, ça sera qui l'improvisation. Il fait que de l'improvisation.
Ce sera qui ?
Très honnêtement, je pensais que c'était Diarra, mais j'ai vu le match de Motta mercredi contre Marseille. Alors, certes, franchement, je pense que Motta
paraît.
Il y avait rien. Attendez, mais il y a une vraie explication aussi. C'est que Motta, quand Motta est là, Verratti est un autre joueur. C'est-à-dire que Verratti, il joue avec papa.
Là, t'as raison.
Il joue avec papa et il est en confiance.
Il joue avec papa.
Bah, il joue avec papa Motta. C'est son.
En passe latéral.
Soyez clair aussi.
Et ils ont une complicité
tous
les deux.
D'ailleurs.
Et Verratti est un joueur différent quand Motta est sur la pelouse.
D'accord. Ouais. Avec 2 buts de retard.
Rien à ajouter. Est-ce que Thiago Motta sera sur le terrain ? Est-ce que Thiago Silva sera sur le terrain ?
Pardon. Oui, je pense.
Donc, ça ne sera pas la même défense qu'à l'aller.
Non, je pense qu'il va le mettre avec...
Il vire Kimpembe.
Ah non, pas Kimpembe.
Qui vire ?
Si
Marquinhos
s'est blessé. Si Marquinhos, il a raison. Si Marquinhos
s'est blessé, évidemment.
Si Marquinhos s'est blessé. On parlait dans l'hypothèse où il a le choix avec les trois joueurs.
Il va mettre les mêmes qu'à l'aller, non ?
Donc, il vire Thiago Silva.
Il l'a fait à l'aller. Pourquoi il le
fait ?
C'est pas logique.
Est-ce que vous savez pourquoi Thiago Silva...
Mais il n'est pas logique.
Est-ce que vous savez pourquoi Thiago Silva n'a été prévenu que le matin de la rencontre contre le Real Madrid.
Pas d'internet, pas de réseau.
Thiago Silva, est-ce que vous savez pourquoi Unai Emery a dit à Thiago Silva le mercredi matin, tu ne joueras pas le match.
Mais c'est pour qu'il pleure pas toute la nuit, qu'il réveille pas tous les autres jours.
Il réveille pas les enfants.
C'est parce que si tu lui dis la veille du match, Thiago Silva prend son téléphone, appelle Nasser El Khelaïfi et Nasser El Khelaïfi appelle Unai Emery et
Ça met le boxon.
Ça, c'est de la fiction. C'est un peu de fiction.
Parce que qu'est-ce qu'empêche Nasser d'appeler le matin?
Je vais vous dire que j'ai une. Que c'est pas une information.
On est d'accord.
C'est une interprétation.
On peut tout interpréter.
Quelqu'un assez proche, que je ne citerai pas, de quelqu'un assez proche de l'univers du Paris Saint-Germain.
Parce que vous pensez que. Alors, juste
il m'a dit
Thiago
Silva, c'est tellement insupportable. Oui. Il passe son temps à pleurer auprès de Nasser El Khelaïfi, que l'autre. Il a dit, quitte à mourir, je mourrai avec mes idées. Et
mais,
je ne voulais
mais ça ne choque pas qu'il meure avec ses idées, c'est pas ça l'idée. Mais c'est que si il l'apprend à 10h du matin, qu'est-ce qui l'empêche à 10h10 d'appeler Nasser Al-Khelaïfi?
Demain, il était midi, visiblement. Quand
et bah, midi 5.
On va pas faire le match. Franchement,
c'est pas la même chose.
Je veux dire, il l'a pas appris après le match qu'il était pas titulaire.
Alors, j'étais content, je pensais vous épater.
À
une petite. Voilà, un petit peu de coulisses que je vous donnais. Et là, pareil. Tout ce qui n'est pas écrit dans l'équipe, finalement, ça pour vous, ça n'a pas de
parce
valeur.
Ça a beaucoup moins de valeur, sauf si, c'est dit, sauf si c'est dit sur RTL aussi.
Bon, si Marquinhos n'est pas blessé, on est tous d'accord, Marquinhos est partant d'accord. Certain. D'accord
reste,
Le choix logique, c'est évidemment de remettre Kimpembe, puisque bah si oui. Tu as fait un choix sportif pour Madrid, il n'y a pas de raison que 15 jours après ou 3 semaines après, tu changes d'avis. La seule explication qui ferait qu'éventuellement Thiago Silva jouerait, c'est qu'il peut considérer, il peut s'en sortir comme ça, qu'à Madrid, la pression extérieure du stade négative, il lui fait payer un peu Barcelone l'année dernière où il s'est écroulé, alors qu'à Paris, il peut dire au parc, l'ambiance est positive.
Mais vous le prenez pour
Thiago
un pain
Silva sera
Thiago
non,
Silva ou quoi
Mais bien sûr que si. Sinon, tu peux pas mettre Thiago Silva.
C'est impossible. Mais ce que je te dis.
On a répondu à toutes les questions, sauf à la question essentielle. Ce sera la question après la pub. Est-ce que Paris va se qualifier?
RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Belle soirée en perspective, ce soir le multiplex, on attend Christian Olivier, il y aura Amiens Stade Rennais, il y aura Angers-Guingamp, il y aura Metz-Toulouse et Saint-Étienne-Dijon. Bah, je trouve que c'est des super matchs pour le fameux championnat du rez-de-chaussée. Et je vous dis qu'on va se régaler. C'est vrai que Metz-Toulouse par exemple. Mais oui.
Mais Christian a digéré quand même l'histoire de la vidéo aujourd'hui.
Non mais attendez, ça va être l'enfer pendant 3 heures. Donc je me prépare mentalement à une soirée difficile. Parce que voilà, c'est un débat, on l'a dit, mais vous ne nous chauffez pas là. Vous ne voulez pas rester d'ailleurs jusqu'à 23h, parce que je me sens seul parfois dans le
là, je crois que je vais vous laisser seul.
Eh oui, parce que Noé-Éric est un peu. Il est pour la vidéo. Ce soir, il y aura Bertrand Latour qui est farouchement contre, et Christian Olivier qui.
Bertrand, c'est le seul jeune avec des idées dures, effectivement.
Il n'est pas là pour vous répondre. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain va-t-il se qualifier sérieusement? Est-ce que le PSG va passer?
Moi, j'ai peur.
C'est quoi votre intime conviction?
J'ai peur que ça soit juste. J'ai peur qu'ils encaissent à minima un but et que
Bilderman.
Ça devienne très compliqué. Moi, ce que je rêve comme scénario, c'est un 3-1. C'est-à-dire que Paris Saint-Germain va certainement prendre un but, va en marquer et que 3-1. Après, on est dans l'irrationnel. Quoi qu'il arrive, on vive une soirée irrationnelle. C'est comme ça que je la pronostique.
Votre sentiment, parce que vous êtes des experts, forcément, on a tous un sentiment.
Honnêtement, je vois quand même le Real se qualifier parce que moi j'ai l'impression qu'ils vont prendre quand même un but et que ce sera difficile de revenir. Mais, parce que bien sûr il y a un mais, les absences aussi conjuguées de Kroos, visiblement, hein, de deux joueurs majeurs, voilà, Kroos et Modric dans l'effectif de Real, peut-être les mettre en difficulté. Et si vous avez une espèce de folie, parce qu'il y a des soirs de folie comme ça, on ne peut pas les expliquer, on ne peut pas les ressentir aujourd'hui, on les ressentira mardi, peut-être à 18h, vous allez sentir dans le tour du stade.
À 18h, je ne sais pas.
Oui, mais on sent des fois autour du stade, dans le stade, une ambiance, quelque chose, et on se dit, tiens, il y a un retournement possible. Et là, si vous êtes dans cette effervescence-là, espérons.
Oui, bah, évidemment que c'est possible.
Mais pas possible. Ça, je le sais que c'est possible. C'est votre intuition. il faut vous mouiller. Par exemple, je me suis mouillé à l'aller avec cette hauteur de vue qu'on me reconnaît de temps en temps. J'avais vu une victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Je pensais que le PSG était plus fort. Je passais mon temps à dire ça.
Mais le PSG a été plus fort.
Donc j'ai été très déçu, puisque effectivement, je suis tombé de ma chaise. Puisque le PSG a été moins fort, j'ai découvert.
A été moins fort ou a été moins bien coaché, on va
moins
dire.
Fort. Des Marcelo, tout ça,
moins bien coaché, peut-être aussi.
Il y avait une énergie, quelque chose qui passait au Real et le PSG m'a déçu.
Pascal, moi je rejoins Hervé sur les absences de Modric et Kroos qui sont primordiales.
Surtout Modric.
J'allais dire, si Modric est forfait. Ouais. Les chances du Paris Saint-Germain augmentent sensiblement. Et paradoxalement, moi je pense que l'absence de Neymar n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose pour le Paris Saint-Germain. J'adore Neymar.
Pas dire ça, là on est chez les fous. Si on commence à dire que comme Neymar n'est pas là, le PSG est meilleur.
Mais pourquoi le PSG va jouer en équipe?
Là les gens qui nous écoutent vont dire qu'on. Ça y est, on est bidon complet.
On peut l'argumenter.
On est chez les fous.
Non, on peut l'argumenter.
Je vous le dis.
Di Maria est dans une forme étincelante. Il n'a
Mais non, mais attendez. On parle de soirée irrationnelle. J'ai entendu Eric dire
c'est votre
irrationnel. Hervé dire des fois il y a des atmosphères particulières. Mais il y a peut-être un scénario incroyable qui est en train de s'écrire justement avec Di Maria qui a été placardisé. Avec Mbappé qui aurait dû aller au Real, qui n'y est pas allé, qui finalement va peut-être
être
bon.
Changer
d'avis. Mais voilà, il peut y avoir des choses extraordinaires.
Raymond, mettez un peu l'église au milieu du village. Vous qui êtes un homme de bon sens.
Ils ont très bien dit tout ce qu'a dit, tout ce qui a été dit, c'est très bien.
C'est bien ce qu'a dit l'ami.
Tu vas dire un mec à 222 millions et c'est sans lui que tu te qualifies.
Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. C'est grâce à sa blessure qu'on se qualifie.
Non, mais l'histoire est encore plus belle.
Ça peut être une bonne dynamique. Sans Neymar, ils peuvent peut-être jouer en équipe, être plus solidaires, avoir un truc de révolte. Moi, je rejoins ce qu'a dit Eric. Pour le scénario 3-1, c'est parfait. Sauf que plus le match il va durer, éventuellement prolongation, plus Zidane il va encore prendre le dessus sur Emery. Le mieux, ce serait que le PSG, dans les 30 premières minutes, fasse tout de suite l'affaire et règle tout de suite l'affaire en marquant 2 voire 3 buts. Et là, un bon scénario.
Non, mais d'accord. Dans le premier quart d'heure, c'est mieux.
Plus le match il va durer et plus et c'est plus un match qui va être entre le PSG et le Real, c'est Zidane qui va encore écraser Emery comme à l'aller. Plus le match il va durer et plus Zidane il va faire des choix et vous allez voir que Zidane il va encore marcher sur Emery. Bon,
et comment est le Real?
Ils n'ont pas été très bons contre l'Espagnol Barcelone. Ils ont été battus à la dernière minute à l'extérieur 1-0. Ils sont tout simplement dans l'inquiétude sur Kroos et sur Modric. Je crois qu'on est vraiment aujourd'hui, non pas dans savoir s'ils jouent bien, ils jouent moins bien, parce que de toute façon, leur situation au championnat n'a plus guère de sens. Ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions et ils seront de toute façon à 25 points ou à 18 points de Barcelone. Mais quelle équipe il va aligner, parce que si jusqu'au dernier moment il y a une incertitude sur Kroos et sur Modric, le problème de Zidane c'est pas de se positionner par rapport au Paris Saint-Germain, c'est comment il va construire son milieu de terrain.
Il y a un peu de sourire autour du micro parce que figurez-vous qu'Éric, notre ami Christian Olivier vient de rentrer et il eut fallu peut-être une musique,
le regard,
la musique du clan des Siciliens lorsque Jean Gabin entre, si vous voulez voir ces hommes,
ou le professionnel avec Belmondo quand il va pour prendre l'hélicoptère.
Figurez-vous que je bats ma coupe.
Ah, bonsoir Christian Olivier.
Bonsoir à tous. Je suis pour la vidéo.
Je sens que vous allez sortir une blagounette de votre aspiration.
Je suis pour la vidéo, je vous le dis. Puisque vous souhaitez une justice dans le monde du football avec des décisions immaculées, effectivement. Pour la Coupe du Monde et la Ligue 1 la saison prochaine, je suis d'accord avec vous. Bravo. Justice pour tous.
Justice pour tous.
Ligue des Champions la saison prochaine. La vidéo ?
C'est pas le débat du jour.
La Coupe de France, vidéo, bien sûr. À partir des quarts de finale.
Mais en cadet aussi.
Mais
en DH, mais le dimanche.
Mais en huitième de finale.
Partout.
Ah non, mais attendez.
Bien sûr, vous avez raison, c'est comparable.
Non.
Une finale avec 3 milliards de téléspectateurs et un match de 10 millions, c'est comparable.
Écoutez-moi.
Mais vous avez raison.
Écoutez-moi.
C'est comparable.
La Ligue des Champions, c'est quoi? La Ligue des Champions.
Mais la Ligue des Champions, elle sera
ça génère pas du cash, la Ligue des Champions.
Mais quel rapport avec le cash?
C'est vous qui me parlez d'argent, c'est vous qui me parlez d'enjeu. Je sais, mais je pour la vidéo. Mais imaginez qu'un club de Ligue 1 n'ait plus aucune prétention dans le championnat et soit éliminé en Coupe de la Ligue et vise tout pour gagner une Coupe de France. Et que ce club se fasse éliminer sur une injustice en huitième de finale, il n'y a pas la vidéo. Mais c'est une injustice flagrante pour le président.
Moi, ça va être l'enfer. Non. Jusqu'à 23h, ça va être
ça. Ça va pas être facile.
Attends, jusqu'à 23h.
Pascal, je suis pour la vidéo.
Je serai rinté du studio. Je mets 3 jours pour récupérer.
Mais vous ne m'écoutez pas.
Mais je n'écoute que vous.
La Coupe de la Ligue qui permet d'accéder à la Coupe d'Europe. C'est important, la Coupe de la Ligue.
Mais tout est important. Le match de DH.
Vous allez me sortir
aussi à Paris. Je vous connais par cœur.
Je suis d'accord avec vous, je suis pour la vidéo.
C'est à Paris.
Imaginez
le dimanche en DRH.
Mais qui vous parle de DRH? Pas
DRH,
de caricature.
Même pas la DRH. DHR.
Mais
DRH.
Oui, DHR, d'ailleurs, oui.
La DRH.
La DRH, je peux prendre du cash, mais la DRH.
Avec ton émission, tu peux retourner.
C'est trop important pour plaisanter. Je suis pour la vidéo.
Mais je plaisante pas.
Je termine. La Coupe de la Ligue. Un club de Ligue 1 qui se fait éliminer sur une injustice en huitième de finale, pas de vidéo. Mais la Coupe d'Afrique des Nations, Hervé? La Coupe d'Afrique des Nations.
Même en Afrique, ils commencent à utiliser la vidéo.
On aura la vidéo?
Ah oui.
Lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations?
C'est possible.
Oui, non, il faut être certain. Hein.
Ah oui, parce qu'ils l'ont déjà utilisé pour la finale de la Super Coupe d'Afrique.
Donc,
première
avec des
utilisation de l'histoire. Sur
hors du stade, avec quelqu'un dans des cabines.
Vous voulez pas rester avec moi, Hervé?
Je suis pour la vidéo.
Si vous pouviez rester, je vous demande comme un service personnel.
Pascal.
Vraiment, parce que moi, je sais que j'en peux jouer. Ça va être terrible pour moi.
Vous qui aimez la justice.
Non.
Je suis d'accord
mais
avec
je,
vous.
Je n'aime
la
pas.
Justice mais pour
je,
tous.
Mais je n'aime pas la justice. Mais la justice pour tous.
Vive la vidéo. Vive la vidéo.
Tous je pense que ça rend fou. Je pense que la vidéo rend fou.
Les anti-vidéos, c'est terrible.
Je pense que ah bah oui, les anti-vidéos, c'est terrible. Il y a des gens qui nous écoutent peut-être. Pour la première fois, on ne sait pas, ce soir, il tombe sur un débat. Il se dit, j'ai entendu deux fous sur RTL à 18h30 qui échangeaient des arguments un poil absurdes ou surréalistes. Je rappelle qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un jour funèbre pour certains, la décision a été prise d'accepter l'arbitrage vidéo durant la Coupe du Monde. Moi, je réponds à ça par un argument de bon sens.
Vive
je
la dis... vidéo. Mais
vous pouvez pas terminer une phrase.
La parce vidéo que... pour tous.
Voilà, vous pouvez
la
pas
vidéo pour tous, la justice pour
voilà,
tous.
Voilà, ce que ça va être jusqu'à 23 ans. Donc, vous avez compris. Donc, je réponds à un argument de bon sens.
Pas de justice c'est... sélective.
Allez, je réponds à un argument de bon sens. Je dis évidemment, la vidéo, elle ne peut pas être mise à tous les matchs sur toutes les compétitions.
Absolument.
Mais l'épreuve phare, reine du football, qui est la Coupe du Monde, qui est un exemple, qui est un symbole. On ne peut pas aujourd'hui disputer une demi-finale de Coupe du Monde ou une finale de Coupe du Monde avec une erreur majeure qui aurait influencé le résultat d'un match. C'est un résultat. Mon raisonnement, il ne va pas très loin. C'est un raisonnement de bon sens.
Et une finale de Ligue des Champions,
eh bien,
ou pas ?
Je pourrais vous répondre d'abord que c'est deux institutions Pascal différentes, mais je vais vous répondre. Mais la Ligue des Champions n'a pas le
non,
même
poids.
Non, ça
ne rapporte rien, la finale de la Ligue des Champions. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout.
Mais parlez tout seul, puisqu'on ne peut pas vous répondre.
Vous savez que la finale de Ligue des Champions rapporte plus qu'une finale de Coupe du Monde. Où sont les enjeux ? Les enjeux, la justice pour tous.
Mais je viens de vous dire qu'il y a quelque chose d'exemplaire dans la finale de la Coupe du Monde qu'il n'y a pas dans l'épreuve de Ligue des Champions. Est-ce que c'est clair comme argument ?
Pas du tout. Est-ce quoi qu'exceptionnellement on peut rentrer chez nous et vous laisser tout le monde jusqu'à 23h ?
Lucas, mais juste est là.
Vive la vidéo !
À tout de suite. C'est parti.
Vous écoutez RTL.